Oui, ça va être intéressant le prochain sujet. On dirait que j'ai honnêtement une petite difficulté avec le terme intimidation. On dirait qu'il est utilisé beaucoup. Et là, je suis curieux parce que le titre de cette étude-là est quand même inquiétant. Intimidation à l'égard du poids dans nos écoles primaires, ça existe. Pour en jaser, on a Yves G. Jalbert, spécialiste du contenu à l'Association pour la santé publique du Québec au téléphone. Bon matin, M. Jalbert.
Ben bonjour, monsieur.
Vous allez bien?
Oui, vous?
Oui, oui, super bien. Ce matin, c'est une belle matinée, là. Il fait doux, on va le prendre. Il y a plusieurs jeunes qui sont en train de se préparer à l'école, pour aller à l'école, en fait, et vous êtes en train de nous apprendre là, que sur votre sondage qui a été mené auprès de 1005 parents par l'Association de la santé publique du Québec, on démontre qu'il y a un parent sur trois qui s'inquiète que leur enfant soit victime d'intimidation à l'école à cause de leur poids. Et en plus de ça, ben, on se rend compte qu'effectivement, il y en a quand même pas mal là, qui reçoivent des commentaires là, qui peuvent être très particulier. Hein?
Oui, effectivement, moi, ça passe que le phénomène de l'intimidation à l'égard du poids s'installe très tôt dans la vie, puis s'observe dès l'école primaire. Nous, on avait déjà fait en 2013 une étude auprès des élèves secondaires, et déjà là, on avait l'indication que, oui, effectivement, il y avait une intimidation à l'égard du poids qui était très présente au secondaire, et on s'est posé la question, est-ce que ça se pourrait que ça se passe aussi au primaire, et là, l'étude nous démontre que oui. Parce que les parents nous disent effectivement que, un, ils sont inquiets, mais il y a 4 parents sur 10 qui rapportent que leur enfant est intimidé à cause de son poids à l'école. Et nous, quand on parle d'intimidation à l'égard du poids, c'est pas juste le surpoids et l'obésité, mais c'est aussi les jeunes qui sont maigres. Donc, on s'aperçoit que c'est aussi plus les garçons que les filles qui intimident, qui sont intimidés.
Ouais, on parle de poids, mais dans le fond, ce serait la taille physique en général là, qui pourrait causer problématique. Ben,
c'est taille physique et apparence physique. Ouais, ouais. C'est un peu difficile de discerner lequel et lequel, là, mais c'est vraiment les deux ensemble.
Et c'est pour ça que j'ai un petit peu de difficulté avec le terme intimidation. Je m'explique, là, parce que là, vous devez vous dire « Ouh, c'est qui s'en va, lui-là? » C'est que à un moment donné, il me semble que l'école est supposée d'être un lieu, moi c'est ce que j'ai appris, où on doit définir un petit peu l'échelle sociale, où il y a donc des confrontations entre les différents individus pour savoir où on s'y trouve. Alors moi, je m'attends à ce qu'il y ait du brasse camarade un peu entre les jeunes, puis qu'on se dise des vérités qui parfois peuvent être déplaisantes, ou qu'on essaie justement d'amener un regard différent qui va blesser l'autre. Peut-être c'est possible, il me semble que ça s'entrechoque. À quel moment est-ce que ce jeu-là de délimitation de l'échelle sociale devient de l'intimidation? Est-ce que vous avez posé une frontière?
Oui, parce que l'intimidation, c'est tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement. C'est-à-dire que quand on parle d'intimidation, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, c'est quotidien, c'est que l'enfant se fait toujours insulter. Il se fait, il y a des moqueries, il y a des plaisanteries, il y a des menaces verbales et physiques. Il peut se faire bousculer, il peut se faire voler ses objets personnels, il peut avoir du rejet, de l'exclusion. Mais c'est quelque chose qui est répétitif. Quand on parle d'intimidation, oui, c'est quelque chose qui revient toujours.
Exactement. Et ça?
Quand on parle de stigmatisation, là, c'est différent. Là. C'est un commentaire verbal qui va être inapproprié puis qui va être exprimé, mais qui ne reviendra peut-être pas. Mais quand on parle d'intimidation, c'est que ça revient quotidiennement.
Ouais, et ça, je comprends que c'est à proscrire. Là, je comprends que les parents s'inquiètent de ce phénomène-là, parce qu'à un moment donné, on veut que notre jeune puisse aussi se développer, puis qu'il y ait des chances d'y aller positivement dans ce sens-là. Mais écoutez, est-ce que les parents le comprennent bien, eux autres, que la notion d'intimidation, c'est différent de la notion de stigmatisation, parce que il y en a beaucoup qui se montrent inquiets là.
Oui, mais les parents sont conscients de ça, mais on a posé aussi des questions aux parents, savoir si eux avaient déjà subi de l'intimidation ou si eux en avaient déjà fait. Et c'était quand même assez étonnant, c'est que le tiers des parents ont déjà personnellement techné quelqu'un à cause de son poids, puis aussi à peu près là, 2 parents sur 10 ont déjà émis des commentaires négatifs, humiliants ou blessants à quelqu'un à cause de son poids. Donc les parents le font, fait que si les parents le font, bien souvent les enfants vont répéter ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, et qu'ils le refont à l'école, eux autres. Puis à l'école, bien, ça va être à la récréation, au dîner, au service de garde, après l'école. Et c'est là que ça va se passer. Puis c'est surtout là, au terrain de jeu, dans les vestiaires, dans l'autobus scolaire, dans le gymnase, donc là où les enfants se retrouvent. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut agir en amont. Il faut faire de la prévention, de l'éducation, de la sensibilisation auprès des parents, des élèves, des intervenants scolaires, afin de créer un environnement scolaire qui est sécuritaire, qui est positif et bienveillant, au sein duquel la santé physique et mentale des enfants est protégée. Donc, c'est le rôle de tout le monde. C'est pas juste les intervenants scolaires, mais c'est aussi les parents, aussi les élèves, mais faut les prendre, faut avoir une prise en charge. Et pour ça, nous, on a développé un guide de pratique là, qui s'adresse là, aux intervenants scolaires.
Vous avez dit tout à l'heure que les enfants qui se font intimider souvent ou la plupart du temps, ce sont les garçons plutôt que les filles. Est-ce qu'il y a une raison pour ça?
Oui, ça a beaucoup surpris Gabriel, ça, ce matin.
Ben, je me disais qu'une fille...
C'est ce qui sort de l'étude et c'est les parents qui nous donnent l'information. Donc, on n'a pas l'information de la bouche des enfants parce qu'on ne peut pas faire un étude de ce type-là. Mais c'est plus les parents qui nous disaient ça.
OK, parce que je me disais qu'une fille, c'est un petit peu plus vulnérable.
Oui, mais quand on lit la littérature scientifique, c'est aussi ça qu'on remarque. C'est toujours les garçons qui sont les plus intimidés et c'est aussi ceux qui vont intimider le plus, contrairement aux filles. Par contre, quand on arrive au secondaire, ça change, la dynamique va changer, mais au primaire, c'est plus les petits garçons que les petites filles.
Ah!
Qu'est-ce qui serait à changer pour les intervenants à l'école? On dirait que je l'imagine mal. J'arrive là, puis le moindre comportement qui sort légèrement du cadre est répréhensible dans le cadre de l'enseignement primaire. Alors, je vois pas comment ils peuvent agir plus fort.
Ben, faut comprendre que dans la société, on prône un modèle de beauté unique. C'est-à-dire, c'est le culte du corps svelte ou mince pour les filles, ou musclé et mince pour les garçons. Il y a aussi une obsession de la minceur et de la jeunesse là qui est très présente. Donc, on essaie de voir les gens toujours dans le même moule. Mais il faut dire qu'on vit dans une société où il y a une diversité des corps. Donc, il faut que les intervenants soient capables de dire que oui, les gens sont différents, que tout le monde est différent, qu'il y a une diversité dans les corps. Et que cette diversité-là, il faut la mettre de l'avant et non pas essayer de mettre tout le monde dans le même moule. C'est impossible que tout le monde ait le même gabarit. Donc, il faut que les intervenants soient capables de dire aux jeunes que, voyez-vous, ça existe des gens différents. Et les gens différents, je veux dire, le corps humain est composé de la même façon pour chacun, sauf que la présentation du corps humain de chacun est différente. Donc, il faut comprendre ça, puis il faut être capable de mettre de l'avant la diversité des corps.
Ouais. Je comprends qu'on traite de l'intimidation ce matin, mais de l'autre côté, vous êtes à l'Association pour la santé publique du Québec.
Oui.
On n'a pas un trouble de santé publique, justement, avec l'embonpoint chez nous?
Bien, il y a un problème de santé publique. C'est sûr que quand on parle d'obésité ou de surpoids, il y a une personne sur deux au Québec qui a un problème de surpoids ou d'obésité. C'est un problème de santé publique. Sauf que nous, ce qu'on on déplore, c'est que l'industrie, et quand on parle de l'industrie de l'amaigrissement ou l'industrie pour la prise de masse musculaire, elle est très présente et elle est là pour justement combler des besoins que nous, on n'est pas capable de régler parce que nous, nos messages de prévention sont pas sexy et sont pas attrayants.
Ouais.
Nous, quand on dit aux gens, pratiquer des saines habitudes de vie, et dans ça, c'est de changer son alimentation, faire de l'activité physique, pas boire de l'eau, pas boire d'alcool, pas fumer, bon, etc. C'est pas très sexy. Mais quand l'industrie arrive à dire, ben, nous, on a une pilule magique pour vous et vous allez prendre ça, vous allez perdre du poids de façon rapide, sans effort et sécuritaire. Bon, on se dit, ben, ça n'a aucun bon sens, mais ils prônent ça. C'est que l'industrie vient combler ce vide-là et les gens, ben, se tournent vers ça en se disant, ben, ça va être rapide avec eux autres, parce que si on y va avec la santé publique, c'est sur du long terme. Nous, on peut pas arriver puis vous dire, vous allez perdre du poids rapidement et facilement et sans effort. C'est impossible. C'est là le danger.
OK. Fait que j'essaie de tirer un lien de ces deux phénomènes-là. Dans le fond, vous demandez aux gens d'enseigner la diversité corporelle pour amoindrir les impacts à partir du milieu scolaire. Puis de l'autre côté, il faut continuer à plaider pour les saines habitudes de vie, mais ça, c'est un processus sur le très long terme. Parce que on va se le dire, puis vous avez une très bonne image. Là. C'est pas sexy de le vendre, mais c'est la seule solution pour avoir un mode de vie sain.
Ben c'est ça. Puis je veux dire, comme je vous dis, le problème majeur que nous on déplore, c'est la place de l'industrie et aussi pas juste l'industrie de l'amaigrissement puis pour la prise de masse musculaire, mais c'est aussi toute l'industrie, là, les médias écrits, électroniques, sociaux, les différents producteurs et diffuseurs, les agences de publicité, l'industrie du cosmétique, de la mode, du cinéma, du spectacle, qui font en sorte qu'ils vont toujours projeter une image qui est irréaliste et impossible à atteindre. Et ça aussi, c'est un danger en santé publique.
On en parlait un petit peu tantôt, il y a des parents qui ont annoncé avoir eux-mêmes fait de l'intimidation. Quand vous envoyez justement des campagnes qui mettent de l'avant, mettons des mannequins qui sont plutôt minces ou quoi que ce soit, je sais que vous êtes en train de dire qu'il faudrait peut-être qu'on change le type de modèle qu'on présente dans ces campagnes-là, mais ça arrive qu'on en a des mannequins un peu trop minces, puis il y a des gens qui vont aller de l'avant, puis justement avoir des commentaires qui, une fois répétés là, par un millier d'autres parents, vont finir par devenir de l'intimidation. C'est pas un très bon exemple non plus, là, ça, non?
Non, non, mais c'est sûr que, comme je vous dis, l'industrie, quand elle présente des modèles irréalistes, autant pour les hommes que pour les femmes, mais c'est sûr que les gens sont attirés vers ça, parce que oui, c'est vrai, effectivement, c'est beau, mais dans certains cas, quand on voit certains mannequins, surtout pour les femmes, ben, ils sont tellement maigres, c'est plus de la minceur, là, c'est de la maigreur.
Maigreur, oui.
Puis là, à un moment donné, ça devient dangereux, parce que là, ce qu'on crée, c'est une préoccupation excessive à l'égard du poids, puis aussi une préoccupation excessive à l'égard de son alimentation. C'est-à-dire que là, les gens commencent à s'interdire des aliments ou se restreindre ou diminuer la quantité d'aliments qu'ils doivent manger pour essayer d'arriver à un résultat qui est quasiment impossible à atteindre. Ça représente à peu près 1% de la population, ces hommes-là, qui ont des corps là, exceptionnels. Mm.
C'est intéressant, ça laisse matière à réflexion. Yves G. Jalbert, spécialiste de contenu à l'Association pour la santé publique du Québec. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser ce matin.
Bienvenue.
Bye-bye, bonne journée.